Aujourd'hui, on se fait une petite virée dans Battletoads sur Mega Drive, un jeu original, drôle et varié, mais aussi très long et très difficile. Les vies gratuites y sont donc particulièrement bienvenues. Avant de vous montrer comment en gagner un maximum, on se débarrasse du boss du premier niveau. Prenez les pierres et jetez-les sur l'écran. Nous voilà maintenant au second niveau. Vous pouvez boxer les corbeaux qui vous attaquent. Mais ne vous contentez pas de leur mettre un seul coup de poing ou d'épée. Boxez-les continuellement, ils vont vous rapporter un maximum de points et même un one-up, c'est-à-dire une vie supplémentaire si vous les cognez suffisamment longtemps. Et n'oubliez pas que vous obtenez une vie supplémentaire chaque fois que vous faites 100 000 points. Voilà, on quitte ce niveau en se rappelant que les 4 barrières électriques vous attendent en bas de ce couloir. En tout cas, nous voilà blindés pour attaquer le niveau 3. Ici, des petits monstres verts vont carrément vous voler vos points, regardez. Cognez les monstres et courez récupérer vos points d'énergie. Ça y est. Un peu plus loin, les Battletoads se tapent une petite course. Attention, ça va vite. Surtout, n'appuyez pas sur le bouton de saut lorsque se présente un tremplin sur votre chemin. Ne touchez à rien, envolez-vous et restez toujours vigilant. Voilà, on quitte nos amis, les crapauds, alors à bientôt les Battletoads.
Les dinosaures n'ont pas attendu Jurassic Park pour envahir le monde magique des jeux vidéo. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter la tête la plus dure de la préhistoire, j'ai nommé BC Kid, ici, dans sa deuxième aventure sur console NEC. Et puisqu'on parle de dinosaures aujourd'hui dans Télévisateur 2, en voilà un tout nouveau spécimen, la tortue dinosaure. Si vous jouez sur Game Boy, ne vous inquiétez pas, BC Kid y a aussi promené sa silhouette joviale. Un jeu très rigolo et plutôt bien ficelé. Dommage qu'il soit vraiment trop court. Passons maintenant à la console Mega Drive, qui a accueilli les héros de dessin animé les Flintstones. Un jeu de plateforme original, plein d'idées, plein d'humour et de dinosaures bizarres. Autre excellent jeu préhistorique, Joe & Mac Caveman Ninja, au départ borne d'arcade, adapté par la suite sur Super NES et sur Game Boy. Joe et Mac combattent dans leurs aventures des véritables troupeaux de dinosaures. Regardez celui-là, il est énorme! Eh bien, félicitations, Joe! Mais tous les dinosaures ne sont pas d'horribles carnassiers. Le meilleur ami du plombier Mario est d'ailleurs un dinosaure. Il s'appelle Yoshi et après avoir fait sa première apparition dans Super Mario World, est le héros d'une toute nouvelle série de jeux de réflexion. Salut Yoshi!
La création d'un jeu vidéo est une tâche presque aussi longue et compliquée que la fabrication d'un film. Aussi, Télévisateur n'a pas hésité un instant à aller dans la plus européenne des villes américaines, j'ai nommé San Francisco, pour tout vous expliquer chez Sega of America dans la Silicon Valley. Nous sommes donc allés filmer la fabrication de Jurassic Park Mega CD qui n'est pas encore sorti. Ici, c'est à peu près la même chose qu'au début des studios d'Hollywood, où la section artistique, en passant par le dessin, le maquillage, la production et la post-production, était sous le même toit. Jurassic Park est la première production due à cette technique. C'est le studio multimédia.
C'est un jeu, un projet sur les dinosaures. On veut créer un environnement dans lequel les gens peuvent voir comment réagissent ces créatures et notamment comment elles réagissent face à des êtres humains. On crée un nouveau monde. On sort nos crayons et on dessine ce que le responsable du graphisme nous demande. J'ai donc ici quatre écrans dessinés que l'on scanne sur ordinateur sur un Macintosh. On a ainsi un premier aperçu des décors sur la machine. On utilise aussi des Silicon Graphics, des ordinateurs très sophistiqués pour l'animation des dinosaures en 3D. En fait, vous avez la même vision qu'une caméra qui se déplacerait dans l'espace, l'espace dans lequel on place des objets. Tout ça est en 3D, ce qui nous permet de prendre une caméra, de tourner autour de l'objet et de le voir comme un objet en 3D. On a fait des études sur les déplacements des animaux de notre époque. Par exemple, les autruches, d'après les dernières théories, ce sont des sortes de cousins éloignés des dinosaures. On a ici l'environnement, les animaux y sont intégrés, les programmes créent des comportements et des réactions pour les dinosaures. C'est ça que je trouve assez amusant. Pour les dinosaures, les sons existants ne faisaient pas l'affaire. On est donc allé enregistrer des sons de vrais animaux dans leur environnement naturel, notamment au marais Okefenokee en Géorgie, où nous avons enregistré de vrais sons d'ambiance, tels que de vrais sons d'oiseaux ou d'alligators. Je peux mettre ainsi dans les effets visuels l'échantillon d'un des animaux. Je prends cet échantillon, je l'intègre au jeu et ça devient un cri de dinosaure. C'est donc basé sur le cri d'un vrai animal. Ça ressemble au cri d'un vrai animal, mais ça n'en est pas un. La musique y est pour beaucoup, pour vous mettre dans l'ambiance. Si vous croyez que tout est ok, que vous avez détruit tous les dinosaures dans votre périmètre et que l'ambiance musicale devient tout à coup plus dramatique, vous savez alors que votre travail n'est pas fini et que vous feriez mieux de continuer à ratisser le périmètre dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes équipé de quatre haut-parleurs, vous pourrez entendre le son circuler autour de vous. Vous pourrez ainsi comprendre qu'un dinosaure se trouve derrière vous et vous devrez vous retourner pour lui faire face. Nous voulons que les gens soient installés confortablement dans leur salon et aient l'impression de se retrouver au cœur de la jungle ou dans un désert. Nous sommes arrivés à un point où le travail des effets sonores et de la musique devient aussi sophistiqué qu'au cinéma. J'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur la création des jeux vidéo.
J'ai nommé Battletoads et Battlemaniacs. Voilà un jeu rapide, soigné jusque dans ses moindres détails, varié et surtout très très drôle. Mais la plus grande de ses qualités, c'est qu'on peut y jouer à deux simultanément. Mais attention à ne pas vous cogner l'un l'autre. Dans Battletoads et Battlemaniacs, les décors sont toujours variés et surtout la difficulté est particulièrement bien dosée. Regardez ici, le sol s'ouvre pour vous entraîner dans un gouffre. Mieux vaut ne pas rater son saut. Certains adversaires tombent sur vous pour vous écraser et vous aplatir comme une crêpe. Un volcan en éruption projette une véritable pluie de flammes. Dans l'arbre creux, le deuxième stage en scrolling vertical, les difficultés sont tout aussi innombrables. Vous aurez même droit à une attaque d'aimant qui vous attire et une attaque de ventilateur qui vous repousse. Tout est démesuré dans Battletoads et Battlemaniacs, même les boss. Regardez cet énorme monstre de pierre. C'est lui, le gardien du monde de lave. Mais le plus drôle et le plus incroyable, c'est quand même les coups et leur nombre. En voici quelques exemples. Ici, le coup de marteau façon ugly. Le double coup de poing, double coup de pied. La manchette diabolique, une petite série de choux dans la tête, la chaussure gigantesque. Le coup de tête, l'envol du guerrier. Encore un coup de boule. Et regardez celui-ci, c'est le coup du bélier. Alors si vous aimez rire, si vous aimez l'action et si vous jouez sur Super NES, Battletoads in Battlemaniacs devrait vous ravir. La note télévisateur 2, 94%.
Les Tortues Ninja, c'est bien connu, sont des guerriers farouches et déterminés. C'est donc tout naturellement que nous les retrouvons dans un jeu de combat haut en couleur sur Mega Drive. Disposant bien entendu de nos aimés reptiles, vous pouvez également manipuler quatre autres personnages. Le plus intéressant, sans aucun doute, est April O'Neil, qui en plus de ses talents de journaliste, se révèle être une redoutable guerrière. Classique dans sa conception, ce jeu vous propose de jouer avec un ami ou bien de participer seul à un tournoi, normal. La présence d'un seul bouton de coup de poing et de coup de pied réduit de façon notable les variantes offensives et défensives des combattants. Mais les différents pouvoirs spéciaux dont ils disposent, très efficaces, viennent en partie combler ce manque. Un jeu à réserver en priorité aux fans des tortues et qui récolte la note honorable de 80%.
...1986, année bénie qui vit arriver dans les salles d'arcade le désormais célébrissime Wonder Boy. Premier volet d'une série mythique, ce jeu met en scène un petit gamin des cavernes qui part à la recherche de sa petite amie. Armé de sa fidèle hache, notre petit camarade doit parcourir un nombre impressionnant de stages, éliminer des hordes d'animaux belliqueux et surtout garder son équilibre sur les nombreuses plateformes qui parsèment le jeu. Wonder Boy est aussi connu pour les astuces et bonus cachés que l'on peut trouver un peu partout. Il y a même un important secret qui permet de rajouter 4 niveaux au jeu. Certes, Wonder Boy a passablement vieilli, mais il y a toujours ce petit quelque chose qui nous laisse scotcher à l'écran.
Attention, chef-d'œuvre, voici Ghosts and Goblins, le mythique qui met en scène le non moins mythique roi Arthur, déjà à la recherche de l'affreux qui a enlevé sa chère princesse. Ghosts and Goblins, c'est un voyage chez les fantômes, ghouls et autres zombies, matinée de plateformes et d'aventures. Chaque niveau rapproche un peu plus notre héros du seigneur des mondes inférieurs. Et les différentes armes qu'il peut glaner sur son chemin ne seront pas de trop. En effet, les monstres sortent de partout, et les boss, gros et baveux à souhait, ne seront pas de tout repos. Sans compter qu'il n'y a qu'une seule arme qui permette à Arthur d'avoir l'insigne honneur d'affronter le malin lui-même et de délivrer sa belle. Alors, n'oubliez pas, faites comme Arthur, ne sortez pas sans votre armure.
Cette semaine en preview, voici deux jeux Capcom. On commence par Goof Troop sur Super NES, avec comme personnage principal Goofy, ou plutôt Dingo en français. Dans ce jeu d'aventure, le meilleur ami de Mickey doit se battre contre une bande de redoutables pirates. Comme vous le voyez, ce jeu a un petit air de Zelda 3. Vous devez y trouver des objets et résoudre des énigmes pour avancer dans les niveaux. Bref, Goof Troop sur Super NES s'annonce drôle, astucieux et intelligent. Et nous sommes heureux de vous présenter en exclusivité les premières images d'Aladdin sur Super NES. Le jeu étant prévu pour le début d'année 94, il faudra patienter encore un peu pour en savoir plus. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez droit au test complet d'Aladdin sur Super NES très bientôt dans Télévisateur 2. Pour l'instant, on vous laisse admirer.
pour Noël, la Mega Drive se pare d'une véritable perle rare. Ce joyau n'est autre que l'adaptation d'Aladdin en jeu vidéo. Une adaptation menée en étroite collaboration entre Disney et Virgin Games. Le résultat est un véritable concentré de dessins animés qui réagit à la moindre de vos sollicitations sur la manette de jeu de votre Mega Drive. Certes, les décors sont fantastiques et la bande sonore honore royalement celle du film, mais le principal intérêt du jeu tient surtout à la fluidité de l'animation des personnages. Comme vous pouvez le voir, ces mouvements sont très réalistes, puisque dessinés avec talent par les mêmes animateurs de chez Disney qui ont fait le film. Mais faire du beau, dans le domaine des jeux vidéo, cela ne veut pas forcément dire faire du bon. Ainsi, souvent, des animations fabuleuses cachent une jouabilité ratée. Mais heureusement, ce n'est pas le cas d'Aladdin. Bien au contraire, c'est l'un des jeux les plus jouables qu'il nous ait été permis de voir sur Mega Drive. Récapitulons, des graphismes fabuleux, une bande sonore démoniaque, une animation totalement novatrice et une jouabilité plus qu'acceptable. Bref, vous l'aurez compris, cette version d'Aladdin est totalement béton. Totalement, bah pas tout à fait, car le jeu se termine en moins de 3 quarts d'heure pour un joueur moyen. C'est un peu court, jeune homme, pour un titre de cette envergure. Mais enfin, on pourra toujours répliquer que c'est 3 quarts d'heure de bonheur et que pour quelqu'un qui joue comme ça, 5 minutes en passant, cela lui conviendra largement. Seuls les pros du paddle se sentiront un peu frustrés de voir si vite arriver le dénouement de ce merveilleux conte de fées. Ils lui préféreront sans doute Rocket Knight Adventure. En attendant, je vous laisse admirer ce petit patchwork des différentes séquences qui composent le jeu et qui suivent fidèlement le scénario du film. Un dernier petit mot pour vous dire qu'Aladdin sur Mega Drive mérite largement sa note Télévisateur 2 de 97%.